6. Ce fut le pire été de mon enfance. Pire qu'après la mort de ta mère, vous pourriez me demander, et je répondrai oui. Car mon père était le seul parent qui me restait, et parce que tout semblait se dérouler au ralenti. Il essaya vaguement de trouver du boulot dans le milieu des assurances, sans résultat, même quand il se lavait, se rasait et se mettait sur son 31. Sans doute que la rumeur le précédait. Les factures s'empilaient sur la table du vestibule, sans qu'il les ouvre. C'était moi qui m'en chargeais quand la pile devenait trop haute. Je les déposais devant lui, et il faisait des chèques pour les payer. Je ne savais pas quand ces chèques allaient revenir impayés, et je ne voulais pas le savoir. C'était comme se trouver sur un pont et imaginer qu'un camion fou fonçait droit sur vous, en vous demandant quelles seraient vos dernières pensées avant qu'il vous écrabouille. Finalement, il dénicha un boulot à mi-temps chez Jiffy Car Wash, près de la bretelle de l'autoroute. Ça dura une semaine, soit qu'il ait démissionné, soit qu'il se soit fait virer. Il ne me donna pas la raison et je ne posais pas la question. J'avais été sélectionné dans la All-Star Shrimp League, mais on se fit rétamer lors des deux premiers matchs du tournoi à double élimination. Au cours de la saison régulière, j'avais réussi 16 home runs. J'étais le meilleur batteur de Star Market, mais lors de ces deux matchs, je me tapais 7 retraits, notamment à cause d'une balle à terre et pour avoir loupé une balle qui était passée si haut au-dessus de ma tête qu'il m'aurait fallu un ascenseur pour l'atteindre. Le coach me demanda ce qui n'allait pas. « Rien ?» je répondis. « Rien. Fichez-moi la paix. » Je faisais des conneries aussi, avec un pote ou tout seul. Et je dormais mal. Pas à cause des cauchemars comme après la mort de ma mère, mais impossible de trouver le sommeil avant minuit, ou même 1h du matin parfois. Je pris l'habitude de tourner mon réveil pour ne pas voir les chiffres. Ce n'était pas que je haïssais mon père, mais je suis sûr que cela aurait fini par arriver. J'éprouvais surtout du mépris pour lui. Faible, faible, pensais-je, couché dans mon lit, l'écoutant ronfler. Et bien sûr, je me demandais ce qu'on allait devenir. La voiture était payée, tant mieux, mais pas la maison, et le montant des remboursements me terrorisait. Combien de temps encore avant qu'il ne puisse plus payer les mensualités? Ce jour viendrait sûrement, car le crédit courait encore sur 9 ans, et les économies ne dureraient pas jusque-là. Impossible. « T'es sans abri ?» me disais-je. « La banque va nous prendre notre maison comme dans les raisins de la colère, et on deviendra des sans-abri. » J'en avais vu en ville, plein. Et quand je n'arrivais pas à dormir, je pensais à eux. Je pensais souvent à ces vagabonds urbains, avec leurs vêtements usés qui pendaient sur leur corps tout maigre, ou étaient, au contraire, tendus par leur corps obèse, leurs baskets rafistolées avec du ruban adhésif, leurs lunettes cassées, leurs cheveux longs, leurs yeux de fou, leur haleine qui empestait l'alcool. Et je nous imaginais, mon père et moi, dormant dans notre voiture, près de l'ancienne gare de triage, ou sur le parking du Walmart au milieu des camping-cars. J'imaginais mon père poussant un caddie contenant tout ce qui nous restait. Et dans ce chariot, il y avait toujours mon réveil. Je n'aurais pas su dire pourquoi cette vision me terrorisait. Bientôt, je retournerai à l'école, sans abri ou pas. Sans doute que dans mon équipe, on me surnommerait « Charlie Strikeout ». L'exclu. Ce serait mieux que le fils du poivreau, mais ça aussi, ça ne tarderait sans doute pas. Les habitants de notre rue savaient déjà que George Reed n'allait plus travailler. Ils savaient sûrement pourquoi. Je ne me faisais pas d'illusions. On n'a jamais été une famille très pratiquante, ni même très croyante dans le sens traditionnel du terme. Un jour, j'avais demandé à maman pourquoi on n'allait pas à l'église. Était-ce parce qu'elle ne croyait pas en Dieu? Elle m'avait répondu qu'elle y croyait, mais qu'elle n'avait pas besoin d'un pasteur, ni d'un prêtre ou d'un rabbin, pour lui expliquer comment elle devait croire en lui. Elle n'avait qu'à ouvrir les yeux et à regarder autour d'elle. Papa, lui, avait été élevé en baptiste, mais il avait cessé d'assister aux offices quand son église s'était intéressée à la politique plus qu'au sermon sur la montagne. Un soir, pourtant, une semaine environ avant la reprise des cours, l'idée me vint de prier. Une envie si forte qu'on pourrait parler de compulsion. Je m'agenouillai près de mon lit, joignis les mains fermais les yeux de toutes mes forces et priais pour que mon père arrête de boire. Si vous faites ça pour moi, qui que vous soyez, je ferai quelque chose pour vous. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Promis juré. Je me recouchais et, cette nuit-là, je dormis jusqu'au matin. 7. Avant d'être renvoyé, papa travaillait pour Overland National Insurance, une grosse boîte. Vous avez certainement vu leur publicité avec Bill et Jill, les deux chameaux qui parlent. C'est super drôle. Papa disait « Toutes les compagnies d'assurance utilisent des pubs humoristiques pour attirer l'attention. Mais dès que l'assuré fait une demande d'indemnisation, il arrête de rire. C'est là que j'interviens. Je suis expert en sinistre, ce qui signifie, mais ça reste tacite, que je suis censé faire baisser le montant forfaitaire. Parfois, je le fais, mais il y a un secret. Je me place toujours du côté du requérant au départ. Sauf si je vois des raisons de ne pas le faire, évidemment. » Le siège d'Overland, dans le Midwest, est situé à la périphérie de Chicago, dans ce que papa appelait « la rue des assurances ». À l'époque où il faisait l'aller-retour quotidiennement, c'était 40 minutes de bagnole depuis Sentry, une heure quand ça roulait mal. Plus de 100 experts travaillaient là-bas. Et un jour, en septembre 2008, un agent, qui avait été le collègue de mon père, lui rendit visite. Son nom, c'était Lindsay Franklin. Papa l'appelait Lindy. C'était en fin d'après-midi et je faisais mes devoirs sur la table de la cuisine. La journée avait débuté par un bordel mémorable. Ça sentait encore un peu le brûlé dans la maison, bien que j'ai aspergé du Glade partout. Papa avait décidé de faire une omelette pour le petit déjeuner. Allez savoir pourquoi, il était debout à 6h et pourquoi il avait décrété que j'avais besoin d'une omelette. Quoi qu'il en soit, il avait dû aller aux toilettes, ou bien il avait allumé la télé et il avait oublié ce qu'il y avait sur le feu. Il était encore à moitié bourré de la veille, à coup sûr. Réveillé par les beuglements du détecteur de fumée, j'avais cavalé dans la cuisine, en slip, et j'avais vu le nuage qui montait de la poêle. Ce qu'il y avait dedans ressemblait à une bûche calcinée. Finalement, je raclais le contenu de la poêle au-dessus de la poubelle et mangeais des Apple Jacks. Papa portait encore un tablier. Il avait l'air idiot. Il essaya de s'excuser et je marmonnais quelque chose pour le faire taire. Quand je repense à ces semaines, à ces mois, je le revois toujours en train d'essayer de s'excuser, ce qui me rendait dingue. Mais ce fut aussi une belle journée, une des meilleures, grâce à ce qui se passa ensuite, dans l'après-midi. Vous connaissez déjà la suite, je parie, mais je vous la raconte malgré tout, car je n'ai jamais cessé d'aimer mon père, même quand je ne le supportais plus. Et cette partie de l'histoire me rend heureux. Lindy Franklin travaillait pour Overland, donc. Et c'était un ancien alcoolique. Il n'avait jamais fait partie des collègues proches de mon père, sans doute parce qu'il ne s'arrêtait pas à la Duffy's Taverne après le travail avec les autres. Mais il savait pourquoi mon père avait perdu son boulot. Et il avait eu envie de faire quelque chose. D'essayer au moins. En effectuant ce qu'on appelait, je l'apprendrai plus tard, une visite des 12 étapes. Il devait régler un paquet de litiges dans le coin et, sa journée finie, il décida subitement, sur un coup de tête, de s'arrêter chez nous. Par la suite, il avoua qu'il avait failli changer d'avis car il n'avait pas d'assistant. D'habitude, les anciens alcooliques font ce genre de démarche à deux, un peu comme les mormons. Et puis zut, se dit-il, et il chercha notre adresse sur son téléphone. Je n'aime pas penser à ce qui aurait pu nous arriver s'il s'était ravisé. Je ne me serais jamais retrouvé dans le cabanon de M. Bowditch, c'est certain. M. Franklin était en costume cravate. Il avait une coupe de cheveux impeccable. Papa, pas rasé, chemise à moitié sortie du pantalon, pieds nus, nous présenta. Monsieur Franklin me serra la main, dit qu'il était enchanté de me rencontrer et me demanda si je voulais bien aller jouer dehors pour qu'il puisse parler à mon père en tête à tête. Je ne me fis pas prier, mais les fenêtres étaient restées ouvertes à cause du désastre du petit déjeuner et j'entendis presque tout. Je me souviens surtout de deux choses. Papa expliqua qu'il buvait car Jenny lui manquait affreusement. Et M. Franklin répondit « Si l'alcool pouvait la faire revenir, je dirais « Très bien, mais ce n'est pas le cas. Et que penserait-elle si elle voyait comment vous vivez maintenant, avec votre fils ?» Et puis il ajouta « Vous n'en avez pas marre? Vous n'êtes pas fatigué d'en avoir marre et d'être fatigué ?» C'est à ce moment-là que mon père se mit à pleurer. D'habitude, je détestais le voir pleurer. Faible, faible. Mais je me disais que ces larmes-là étaient peut-être différentes. 8. Vous connaissez tous la chanson, et vous connaissez sans doute aussi la fin de l'histoire. En tout cas, c'est sûr si vous-même êtes en sevrage ou si vous avez près de vous quelqu'un dans ce cas. Ce soir-là, Lindy Franklin emmena papa à une réunion des AA. Quand ils revinrent, M. Franklin appela sa femme pour l'informer qu'il passait la nuit chez un ami. Il dormit dans le canapé convertible, et le lendemain, il emmena papa à une autre réunion des AA, à 7h du matin, baptisée « Aube sobre ». Papa prit l'habitude d'assister à cette réunion, et c'est là qu'il reçut sa médaille de la première année d'abstinence. J'avais séché les cours pour la lui remettre moi-même, et ce jour-là, c'est moi qui avais chialé un peu. Mais tout le monde s'en fichait, ça chialait pas mal dans ces réunions. Papa me serra dans ses bras après, et Lindy aussi. Je l'appelais par son prénom maintenant, parce qu'il était souvent à la maison. C'était le parrain de mon père. Voilà pour le miracle. Je connais bien les AA maintenant. Je sais que ça arrive à des hommes et à des femmes dans le monde entier. Mais à mes yeux, ça restait un miracle. Papa n'obtint pas sa première médaille un an jour pour jour après la première visite de Lindy Franklin, car il fit quelques rechutes. Mais il les avoua, et les gens des AA lui dirent ce qu'il disait toujours, « Continue et tiens bon », ce qu'il fit. Et son dernier faux pas, une seule bière provenant d'un pack de 6 qu'il vida entièrement dans l'évier, eut lieu juste avant Halloween 2009. Quand Lindy prit la parole, lors du premier anniversaire de papa, il déclara qu'un tas de gens se voyaient proposer le programme sans jamais le comprendre. « Papa faisait partie des chanceux », dit-il. C'était peut-être vrai. Peut-être que ma prière n'était qu'une coïncidence. Mais j'ai choisi de croire le contraire. Au AA, vous pouvez croire ce que vous voulez. C'est écrit dans ce que les alcoolos repentis appellent le grand livre. Et j'avais une promesse à tenir. 9. Les seules réunions des AA auxquelles j'assistais, c'était pour les anniversaires de papa. Mais, comme je le disais, Lindy était souvent à la maison et j'ai retenu la plupart des slogans. J'aimais bien « Un cornichon au vinaigre ne redevient pas un concombre » et « Dieu ne fabrique pas de la camelote ». Mais les paroles qui me restent, jusqu'à aujourd'hui, c'est celles que Lindy a dites à papa un soir où celui-ci parlait des factures impayées et de sa peur de perdre la maison. Lindy a répondu que sa guérison était un miracle. Et il a ajouté « Mais les miracles, ce n'est pas de la magie ». Après 6 mois d'abstinence, papa postula de nouveau chez Overland. Et grâce à Lindy Franklin et à d'autres, dont son ancien patron, celui qui l'avait viré, il retrouva sa place. Mais il était en sursis, avec mise à l'épreuve, et il le savait. Ce qui l'incitait à travailler 2 fois plus dur. Et puis, à l'automne 2011, après 2 ans d'abstinence, il eut une longue discussion avec Lindy. Si longue que celui-ci dormit dans le canapé convertible encore une fois. Papa voulait se mettre à son compte, mais pas sans la bénédiction de son parrain. Après s'être assuré que papa ne recommencerait pas à boire si jamais il échouait dans son entreprise, tout en sachant qu'il ne pouvait pas en être absolument sûr, car le sevrage n'est pas une science exacte, Lindy l'encouragea à aller de l'avant. Papa me prit entre 4 yeux pour m'expliquer ce que ça signifiait, travailler sans filet. « Alors, qu'est-ce que t'en dis, fiston ? Je pense que tu devrais dire adios au chameau qui parle. » Ma réponse le fit rire. Et j'ajoutais ce que j'avais à dire. « Mais si tu recommences à boire, tu vas tout foutre en l'air. » 15 jours plus tard, il donna son préavis chez Overland et en février 2012, il vissa sa plaque sur la porte d'un minuscule bureau de Main Street. George Reed, expert en assurance et enquêteur indépendant. Il ne passait pas beaucoup de temps dans ce cagibi. Il arpentait le bitume. Il discutait avec des flics, il discutait avec des agents de probation. Ils ont toujours des bonnes pistes. Mais surtout, il discutait avec des avocats. Beaucoup d'entre eux l'avaient connu quand il travaillait chez Overland, et ils savaient qu'il était réglo. Ils lui confiaient des dossiers, les plus difficiles, ceux où les grandes compagnies d'assurance réduisaient fortement les indemnités qu'elles étaient prêtes à verser ou rejetaient carrément les demandes des assurés. Il faisait de longues, de très longues journées. Souvent, quand j'arrivais le soir, la maison était vide et je devais préparer mon dîner. Ça m'était égal. Dans les premiers temps, lorsque mon père rentrait enfin, je le serrais dans mes bras pour repérer discrètement dans son haleine l'odeur inoubliable du Gilby's. Au bout d'un moment, je me contentais de le serrer dans mes bras. Il loupait rarement une réunion aube sobre. Parfois, Lindy venait déjeuner le dimanche. Il apportait des plats préparés, et tous les trois, on regardait les matchs des Bears à la télé, ou des White Sox si c'était la saison du baseball. Au cours d'un de ces après-midi, mon père annonça que ses affaires marchaient de mieux en mieux.
« Et ça marcherait encore mieux, » ajouta-t-il, « si je me rangeais plus souvent du côté du requérant dans les affaires d'accidents corporels, mais trop souvent, ça sent l'arnaque. »«
À qui le dis-tu ? » répondit Lindy.
« Tu gagnerais peut-être plus d'argent sur le coup, mais à l'arrivée, ça se retournerait contre toi. »
Juste avant mon entrée en première à Hillview High, papa voulut qu'on ait une petite discussion, lui et moi. Je me préparais à subir un sermon sur la consommation d'alcool chez les mineurs, ou sur les conneries que j'avais faites avec mon pote Bertie Bird à l'époque où il picolait, et même après, pendant quelque temps. Mais non, il avait autre chose en tête. Il voulait me parler du lycée. Il m'expliqua que je devais travailler dur si je voulais aller dans une bonne université. Très dur.
Mon cabinet marche bien. Au début, j'ai eu la trouille. J'ai même dû demander un prêt à mon frère, mais j'ai presque tout remboursé. Et je crois que, bientôt, j'avancerai sur des bases solides. Mais pour ce qui est de l'université...
Il secoua la tête.
Tu ne pourras pas trop compter sur moi, hélas. Au début, du moins. On a déjà une sacrée chance de payer nos factures. C'est ma faute. Et je fais tout ce que je peux pour remédier à cette situation.
Je sais.
Mais tu dois t'aider toi-même. Tu dois travailler. Il faut que tu obtiennes de bons résultats aux tests d'aptitude.
J'avais l'intention de les passer en décembre, mais je le gardais pour moi. Il était parti sur sa lancée.
Tu dois également penser aux prêts étudiants, mais uniquement en dernier ressort, car c'est un truc que tu traînes longtemps ensuite. Pense aux bourses aussi, et continue le sport. C'est un bon tremplin pour décrocher une bourse. Mais le plus important, ce sont les notes. Les notes, les notes. Je ne te demande pas de finir major de ta promotion, mais au moins dans les 10 premiers. Tu as compris ?
Oui, père, dis-je. Il me donna une petite tape espiègle sur la tête.